des questions, des retours de votre expérience, de cette méditation, de cette expérimentation. Très intéressant les retours. Ça peut être aussi en lien avec votre pratique du mois précédent ou de vos mois précédents. Vous entendez bien?
Non. La pensée arrive, on ne la poursuit pas. On revient à la sensation de la respiration physique. Mais je me dis, si je pense à ma respiration, je suis toujours dans la pensée.
Oui. Mais alors la pensée vient, une pensée à propos d'une situation de ta vie. Et puis il va y avoir une pensée qui va venir et qui va dire: ah mais non, il faut retourner à la respiration,
oui.
C'est aussi une pensée.
C'est aussi une pensée.
Mais juste après, normalement, la respiration est sentie, c'est une perception qui n'a pas besoin de la pensée.
C'est ça, c'est qu'il faut que le relais soit pris par la perception.
Alors, voilà.
Mais est-ce que le ressenti de la perception n'est pas aussi une pensée?
Alors ça c'est une question... Voilà une question, c'est un fil à parcourir. À ton avis, dans ton expérience, est-ce que on peut percevoir sans penser? Déjà, il faut dire qu'est-ce que c'est la pensée. La pensée, à mon sens, c'est soit des mots, soit des images. Est-ce que pour ressentir la respiration, il y a besoin de penser? Est-ce qu'il y a besoin de l'activité de la pensée pour ressentir la respiration? Est-ce qu'il y a besoin de l'activité de la pensée pour voir un arbre? Est-ce qu'il y a besoin de l'activité de la pensée pour ressentir la main posée sur la cuisse?
Ben oui, parce que justement, la pensée est une image, peut être une image.
D'accord.
Et j'ai cette image-là du mouvement de la cage thoracique, du mouvement des muscles abdominaux. J'ai cette pensée-là.
Tu as cette, oui. D'accord. Oui. Et du coup, est-ce que, en plus de cette pensée-là, il y a quelque chose qui serait autre chose et qui du coup serait une sensation, et que les deux seraient concomitants, ensemble?
Je
Donc
pense,
il y a une
oui.
pensée et il y a la sensation. Et est-ce que tu pourrais avoir cette sensation sans la pensée?
Sans la pensée. C'est ce que je dois travailler.
Est-ce que tu pourrais avoir cette sensation sans la pensée? Tout en étant que cette pensée-là, cette image, peut-être tu as une image de quelque chose qui monte et qui redescend comme une vague, peut-être, ou quelque chose de circulaire,
oui, c'est ça,
ou voilà.
Ça.
Donc ça,
ouverture,
voilà,
fermeture,
ça en fait, tu as
tout ça.
Et du coup, ça est quelque part un petit truc de l'esprit pour ne pas partir dans des histoires, il s'occupe avec l'objet, qui est la respiration là.
Oui.
Il s'occupe, donc il fait un petit schéma, et du coup, comme il est occupé à ce petit schéma, il ne part pas dans des pensées. Maintenant, est-ce que ce serait possible de juste ressentir sans le schéma de ce qu'on ressent,
oui.
Sans partir dans la pensée?
Parce que le schéma dont tu parles est une visualisation.
Est une visualisation. Elle est aidante dans ce sens, mais est-ce qu'elle est indispensable?
Oui.
C'est pas une pensée de distraction, au sens où on entend distraction,
oui.
Partir tout à fait ailleurs que notre objet. C'est une pensée qui est en lien avec ce qu'on est en train de faire. C'est une nature différente. Elle est plus propice. Utile. Mais est-ce qu'il y a moyen d'aller plus loin et de juste sentir la respiration sans qu'il y ait une pensée? Est-ce qu'il y a besoin à chaque fois qu'il y ait une pensée pour pouvoir sentir la respiration? Est-ce que dans ton quotidien, il n'y a pas plein de moments dans lesquels tu penses, tu ressens sans qu'il y ait une pensée?
Ben, je me demande.
Eh bien voilà, c'est une super question. Non mais c'est vrai, c'est une super question et puis on peut cheminer longtemps et très loin parce qu'elle ne sera pas facilement répondue celle-là. Elle n'est pas du tout simple. Et parce qu'après il y a la pensée, mais après il y a le concept. Mais on va pas aller par là maintenant, mais c'est pas une question qui va être facilement répondue. Elle est super parce qu'on peut la garder longtemps, elle va nous faire cheminer loin cette question.
Et pour moi, elle amène à une autre question qui est un peu
que la sensation existe si mon cerveau n'est pas en train de la construire. Ce que tu disais la dernière fois à la précédente,
voilà.
Peu comme l'arc-en-ciel, est-ce que l'arc-en-ciel existe si je ne le perçois pas? Mais est-ce que tu disais de, en fait,
voilà.
Le son est une reconstruction du cerveau, ou même la sensation de la respiration, enfin même une sensation kinesthésique.
Ouais.
Du coup, est-ce que la perception n'est pas elle-même une pensée parce qu'elle est une construction du cerveau?
Voilà, alors je ne dirais pas pensée, parce que, mais ça c'est des manières de déterminer les mots.
Oui.
Mais par pensée, donc on disait soit des mots, soit une image. Et je pense que ça c'est le concept, le concept qui construit. Et donc, par exemple, la sensation « je médite », on n'est pas obligé d'avoir constamment la pensée « je médite, je médite, je médite » ou l'image de soi si on, pour ressentir « je médite ». Mais « je médite » peut quand même être un concept qui, du coup, nous fait créer une expérience. Et dans quelle mesure est-ce que une perception peut… dans quelle mesure, mais ça, c'est la grande question, c'est la même question, effectivement, ailleurs, portée ailleurs. Dans quelle mesure est-ce que quelque chose qui existe pour nous, en nous, phénoménologiquement, existe vraiment en lui-même, ou est-ce que c'est une construction, ou est-ce que c'est une coproduction? Ça, c'est la perspective des neurosciences maintenant, c'est que c'est une coproduction. Il y a d'abord un stimuli extérieur, pour Wolf Singer, ce neuroscientifique, qui parlait, semble-t-il, quand il disait « nous », les neuroscientifiques considérons que, il avait l'air de prendre un peu, de parler de la pensée des neuroscientifiques, qui eux pensent qu'il y a un stimuli extérieur qui vient et qui est interprété par le cerveau, même un stimuli qui peut aussi être visuel, auditif, gustatif, olfactif, et au niveau du toucher, et que, avec toutes ces informations, hop, le cerveau va donner une image de ce que ça doit être, ou de comment le voir. Voilà, une best guess. Best guess.
La meilleure hypothèse
possible. La meilleure hypothèse possible, voilà. Ça va être une reconstruction d'une hypothèse possible, y compris une sensation physique.
Mais c'est ça, ce qui devient encore plus compliqué quand c'est pas un stimuli extérieur au corps, mais qui est carrément à l'intérieur du corps,
voilà.
La respiration.
Par exemple, ouais.
Là, ça devient un stimuli interne.
Voilà. Oui, Chris.
Question, c'est est-ce que dans tout ça, dans l'absence des pensées, qui à peu près vers le sens de vacuité quelque part, je sens ça va quelque part dans ce sens, est-ce qu'on peut avoir une mémoire de cette absence de pensée? Sans penser, est-ce qu'on peut s'en souvenir cette expérience de ne pas avoir une pensée?
Alors, déjà, premier truc, je répondrai à une autre question qui est dans ta question parce que c'est plus simple pour moi. Déjà, j'essaierai d'y revenir au prochain discours, mais on va distinguer un peu plus entre vacuité et absence de pensée. Parce que vacuité ne veut pas forcément dire absence de pensée. Peut-être même bien au contraire. Mais voilà, je développerai ça. Et puis alors maintenant, est-ce qu'on peut se souvenir d'un moment où on n'a pas pensé? C'est ça la question. Est-ce qu'on peut se souvenir d'un moment où on n'a pas pensé? C'est difficile, mais par contre, on peut en avoir un sens, une sensation. Par exemple, en méditation, il y a deux manières de savoir si on a eu beaucoup de pensées. C'est soit on remarque qu'on a eu plein d'histoires très construites, parce que pour qu'une histoire soit bien construite et développée, ça veut dire que ça a pris du temps. Ou au contraire, on remarque qu'on a eu que des émergences de la pensée, mais qui ne se sont pas développées en histoire. Si on remarque qu'il n'y a eu que des émergences, on sait qu'il y a plein de moments où on ne pensait pas. Mais ce n'est pas pareil que ce que tu dis, encore. C'est une manière de savoir, mais ce n'est pas encore exactement ce que tu dis. Ce que tu dis, moi, je le sens dans certaines méditations. Je n'ai pas une mémoire de ce que c'était dans les moments où je ne pensais pas, mais je sens qu'il y avait une continuité de présence dans laquelle il n'y avait pas beaucoup de mots, il n'y avait pas beaucoup de concepts, pas beaucoup d'images et de mots. on peut aussi voir, c'est toujours en lien, on peut aussi voir que des moments, il va y avoir une perception, et puis que la pensée va démarrer après la perception, pour essayer d'interpréter. Et donc là, par exemple, on voit ça très, très facilement quand il y a un son que la pensée ne reconnaît pas, que l'esprit ne reconnaît pas. Parce que lui, c'est son boulot de reconnaître. Il faut qu'il nomme, qu'il mette dans une case, qu'il dise que c'est, tout ça, c'est son travail super efficace. Sauf qu'il y a des fois, bah, il ne trouve pas. Alors il essaye. Ah, ça pourrait être ça. Non, 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 c'est pas ça. Non, c'est pas un oiseau. Non, non, non. Ah, ça pourrait à ce moment-là être. Voilà. Et puis, il essaye. Et à ce moment-là, dans ces moments-là, on voit le travail de la pensée et on voit qu'il y a eu une perception qui n'est pas. Qui est dans laquelle, à ce moment-là, il n'y avait pas de pensée, qu'elle a démarré après. Mais c'est très court. Toi, si ce que tu demandes, c'est est-ce qu'on peut avoir une mémoire d'un long moment sans pensée, je ne sais pas. C'est aussi. Ça, voilà. C'est ta question.
Ben oui, ça reste le lieu mystérieux, en fait, quelque
part. Ouais. Ouais.
C'est le lieu de.
Ouais. On peut pressentir qu'il y a eu un long moment sans pensée. On peut le pressentir. Mais en avoir la mémoire, qu'est-ce que ça veut dire déjà exactement? Comment est-ce que ça serait? Mais ça vaut la peine de fouiller. D'essayer. De la prochaine méditation, tu t'assois et tu dis, voilà, je vais essayer d'avoir la mémoire de moments sans pensée. Mais oui. Mais oui. Et du coup, dès qu'il y a eu un espace entre des pensées, si tu en repères un, tu essaies de te rappeler comment c'était. C'est un peu comme essayer d'avoir la mémoire de ce qui s'est passé quand on est devenu inconscient parce qu'on s'endormait. Et puis en méditation allongée, ça fait souvent ça. On va en dessous du niveau de conscience. On n'est plus conscient de nous-mêmes en train de méditer. Mais on n'est pas encore vraiment, c'est pas encore vraiment du sommeil. Et puis on réémerge. Et là, si on se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé en fait? Où est-ce que j'étais? Et qu'on essaie de se rappeler. Voilà, c'est un peu ce genre d'exercice. C'est des portes d'entrée.
Un petit peu sur ce que disait Chris là et concrètement sur cette méditation, j'ai un doute. Je sais pas si je me suis endormi ou si justement j'ai réussi. Je me suis endormi. Ok.
Ça n'empêche. Vim dit que tu t'es endormi parce que le corps a ronflé.
Ouais, mais.
Non, mais je joue pas sur les mots. Je joue pas sur les mots parce que moi, ça m'arrive d'entendre le corps qui ronfle et je dors pas.
Ouais.
Et donc, je ne sais pas ce qui t'est arrivé en fait.
Il y a des moments, je savais bien, mais je continue à entendre ta voix. J'étais vraiment concentré sur le fait de ne pas dormir. Je n'ai pas entendu le mot.
Ouais. Mm-hmm. Non, mais parce que c'est de nouveau. Est-ce qu'il est possible qu'il y avait des moments où tu avais une forme de présence non consciente?
Ouais.
Et est-ce qu'une présence non consciente, c'est du sommeil ou de la distraction? Est-ce qu'il n'y a que ces deux possibilités-là? Ou est-ce qu'il y a, il y a une manière d'être présent? Il reste une forme de conscience, mais qui n'est plus en train de nommer, de reconnaître, d'avoir une direction, une intention et tout ça. Mais il y a quand même encore une présence qui veut dire qu'à ce moment-là, et tu n'étais pas dans celle dont je parle au moment du gong, sinon tu l'aurais entendu très clairement, mais il peut y avoir des formes de présence dans lesquelles juste quelqu'un qui murmure ton nom était tout à fait là, en fait, alors que tu n'étais pas conscient d'être en train de méditer ou d'être présent. Et donc, il se pourrait bien, et je pense qu'il y a quelque chose de ça, si tu te poses la question avec cette intensité, je pense qu'il y a eu des moments de ça.
Où j'ai vraiment bloqué, enfin j'ai eu plein de pensées qui ont arrivé, que j'ai réussi assez vite à bloquer. Mais du coup, voilà, j'ai eu l'impression que cet état de torpeur, un peu, peut-être un peu profond, il était venu en réponse à tous ces blocages, en fait.
De pensées, oui.
Finalement, qu'est-ce qui se passe quand la pensée n'est pas accueillie, est-ce que c'est pas un mode automatique ou voilà, une sorte de torpeur, je sais pas, voilà, mais c'était assez...
Voilà, et même dans cette sorte de torpeur, en fait, est-ce que torpeur dans ce sens-là ne veut pas dire qu'il y a certaines fonctions de nous-mêmes qui sont en veille,
ouais.
et certaines qui sont en sommeil?
C'est pas le sommeil la torpeur, en fait.
Non, mais ce que tu appelles torpeur, c'est peut-être un mélange, en fait, de certaines choses qui ne sont plus actives,
ouais.
Donc c'est ça que je voulais dire par mise en sommeil. Mais par exemple, l'esprit qui nomme. L'esprit qui nomme, c'est hyper rapide. Dès qu'on est éveillé, l'esprit nomme. Ce qui perçoit, c'est pour savoir ce qui est autour, s'il y a du danger, ce qu'il faut faire. Nous, en plus, dans notre culture, l'esprit nomme énormément. Parce qu'il faut toujours qu'il trouve une direction de ce qu'il y a à faire ensuite et tout ça pour s'installer, pour développer. Donc, mais il y a des moments où on existe et l'esprit ne nomme pas, et c'est pas du sommeil.
Moi, ça me fait penser à ce que tu disais sur la dualité aussi, de dire pourquoi est-ce que la question ce serait est-ce que j'étais en sommeil ou est-ce que j'étais réveillé en fait.
Mmh.
Est-ce que ça ne peut voilà. pas être les deux et
ouais,
est-ce oui. que je ne peux pas être et conscient et en sommeil enfin,
ouais,
la,
ouais.
La, effectivement, la réponse tout de suite oui, catégorise, on dit ok, je dors.
Mmh.
Je dors, ça ne veut pas dire que je n'ai pas aussi la conscience qui est en absence de pensée.
Oui, oui.
Moi, je voudrais partager que ça m'a beaucoup aidé. Ça n'est pas moi.
Voilà.
Aussi pour les joueurs, pour les. Ça n'est pas moi. Et ça a été un petit temps, comme une transition, en fait. J'ai une pensée qui m'a basculé, qui a fait un point de bascule. J'ai senti ça. Il y a eu avant et après.
Ouais.
Et un moment qui est arrivé comme. Forme de pensée, mais que j'ai laissé, que j'ai accueilli pour le coup, parce qu'elle m'a aussi créé un point de bascule, c'est qu'à un moment, je suis la cigale. Je suis la terre, je suis tout cet. Et après, ça m'a lâché aussi cette pensée-là, mais ça m'a
ouais.
amené à un autre endroit.
Voilà.
Et qui,
ouais.
Parce que je n'avais pas très envie d'en sortir au
bong. Oui. Oui, oui. Et donc, ça aussi, donc il y a beaucoup de choses à en dire, mais déjà, d'une part, que bah, les expériences de pensée fonctionnent. Parce que là, on s'est imaginé. Alors, il y avait, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y avait différents degrés c'est du lâcher-prise, en fait. On lâche prise sur l'identité quand on fait ça. Et donc là, en disant je suis la conscience, il y avait un petit peu de ça dans les instructions, ben automatiquement il y a lâché prise sur je suis le corps, je suis la pensée, je suis la conscience qui perçoit le corps et je suis la conscience qui perçoit la pensée. Et du coup, ça, quand on rentre dedans, ça fait un lâcher prise qui est à ce moment-là, quand tu dis il y a eu un avant et un après, je ne sais plus comment tu l'as dit, un shift, un changement. Ce changement, il est même ressenti physiquement, non ? Tu l'as... Physiquement, il y a. Il y a une aisance, il y a c'est moins solide, le corps est moins solide, il est plus, je ne sais pas si c'est comme ça que tu l'as senti, mais donc, juste une expérience de pensée a induit une expérience de perception différente, une manière différente de percevoir. Donc ça, c'est super. C'est ça, une des choses qu'on essaie de réaliser, c'est qu'en fait, on perçoit en fonction de la manière dont on pense. Et que du coup, si on est créatif avec notre pensée, on peut percevoir d'une façon merveilleuse et qui ne crée pas de souffrance. Hein, c'est toujours le central. Donc on peut, grâce notamment à l'imaginaire, hein, parce que c'est de l'imaginaire, je n'aurai pas beaucoup de temps d'en parler aujourd'hui, mais l'imaginaire est super important. La vacuité, en fait, ouvre la porte de l'imaginaire. Et donc là, une expérience de pensée a induit une expérience ressentie. Et puis une autre expérience de pensée est venue, je suis la cigale. Hein? Qui est la cigale? C'est la conscience. La conscience, c'est la conscience. C'est bon. C'est la conscience qui devient la cigale, du coup, on peut dire.
Justement, ça répond. Ça rentre en résonance avec une question que je me suis posée, parce qu'à un moment donné, dans la méditation, tu dis. Sentez la conscience, percevez que vous êtes cette notion de conscience, mais est-ce que la conscience ne pourrait pas être une perception en elle-même ou une autre forme de perception?
Ouais. Et si.
Quand tu sors du jeu, tu m'as amené à cette question, si tu sors du jeu, c'est leur jeu, et à un moment donné, ça rentre en résonance avec aussi ce qui est dit, tu n'es plus qu'un son. Mais tu sens quand même quelque chose.
Oui.
Donc là, on pourrait dire qu'on est conscient, mais cette conscience, est-ce que ça pourrait pas être notre perception?
Oui, parce que déjà dire on est conscient, ça ne sonne plus juste à cet endroit-là. Mmh. Parce qu'on n'a plus la sensation d'un jeu qui est conscient.
Mmh.
Et, Et là, la question que tu pointes du doigt, est-ce que la conscience pourrait être juste une perception? Dans le bouddhisme, c'est ça. Et dans l'hindouisme, non. Et du coup, c'est à cet endroit-là, en fait, qu'il y a eu conflit entre quand le Bouddha est arrivé avec ses enseignements, et puis quand ils sont devenus connus, même après sa mort. Et du coup, moi, j'ai guidé un peu des deux dans cette méditation. Il y a des moments où j'ai dit quelque chose du style de se ressentir comme étant la conscience qui perçoit. Quelque chose comme ça. Et d'autres moments, j'ai dit la conscience n'est ni moi ni à moi. Donc, c'est deux points de vue un peu contradictoires, en fait. Et on peut expérimenter les deux. Je suis la conscience qui perçoit. Ou la conscience est une expérience émergente, dépendante d'ailleurs de la perception. Est-ce qu'il y a conscience quand il n'y a pas perception, hein? Donc, on peut aussi défendre cette thèse. Mais notre but, toujours, n'est pas intellectuel, c'est de, en méditation, sentir la différence. Comment c'est quand je me considère et je me ressens et je m'interprète comme étant la conscience qui perçoit? Comment c'est, est-ce que, quand en méditation, je me considère et j'interprète que la conscience n'est ni moi ni à moi? Du coup, moi et à moi n'a plus aucun ancrage nulle part. Ça, c'est la vacuité du bouddhisme. C'est le non-soi. Le moi et le à moi n'a plus d'ancrage. Sinon, il a quand même un ancrage dans « je suis la conscience », qui est plus du côté de l'hindouisme. On s'en fout du bouddhisme et de l'hindouisme au final. Ce qui nous intéresse, c'est comment, qu'est-ce que ça crée quand on voit d'une manière et qu'est-ce que ça crée quand on voit d'une autre. Et quand on a la plasticité de ces deux manières de voir, quand on les a bien appréhendées, on peut expérimenter une ou l'autre. On peut ramener ces manières de voir et faire l'expérience de nous-mêmes et du quotidien à travers cette manière de voir, comme on le fait tout le temps à travers plein d'autres. On ne fait notre expérience du quotidien que à travers des manières de voir, implicites ou non.
J'aimerais introduire quelque chose à part, mais dans mon sens, pas du tout à part. Est-ce que la pensée, la conception existe s'il n'y a pas de langage? Parce qu'on utilise le langage pour communiquer l'un avec l'autre, pour impressionner l'autre, pour manipuler l'autre, n'importe comment, ou juste pour communiquer. Mais le fait qu'on utilise des mots, c'est déjà faux, parce que pour moi, un mot peut dire quelque chose d'autre que pour quelqu'un d'autre. On ne sait même pas si Daniela voit la même couleur que moi. Donc on dit tous les deux que c'est orange et rouge. Même ça, on ne sait pas. Donc toutes les pensées qui viennent dans nos têtes, même quand on médite, on pense en mots, en langage. Donc, est-ce qu'on a vraiment des pensées s'il n'y avait pas de langage? Parce que si on regarde...
Est-ce qu'il y aurait des pensées s'il n'y a pas de langage, ou est-ce qu'il y aurait des perceptions s'il n'y a pas de langage?
Les deux.
Ok.
Les deux.
Alors, des pensées, s'il n'y a pas de langage...
Tout ce que tu perçois, en fait, tu le traduis en langage. Après, le communiquer avec d'autres ou pour le garder pour toi. Parce que comme ça, toi, tu le comprends.
Oui.
Donc, le vrai problème, est-ce que ce n'est pas le langage, justement?
Alors déjà, est-ce que c'est vraiment un problème? Ou est-ce que il y a des problèmes dans le...
Oui, parce que ça crée des problèmes entre nous.
Oui.
Entre tout le monde.
Oui.
On a une autre perception, pourtant on parle du même chose, des mêmes sentiments, même moi. Je sais pas, la tristesse, c'est complètement différent que pour n'importe qui d'autre. Pourtant on utilise le même mot.
Eh ben ça, on peut pas aussi non plus en être sûr, parce que on peut pas, peut-être, mais c'est pas sûr non plus, parce qu'on peut avoir peut-être différentes raisons d'être triste, mais que la sensation de tristesse soit la même. C'est possible aussi.
C'est possible.
Un ou l'autre.
Si on regarde les animaux, ils sentent la tristesse. Humain, tu es triste, ben ton chien, il va venir te réconforter si tu le traites comme il faut. Sinon, il va te. Mais c'est peut-être tout ça, c'est absolument à côté de la question. Peut-être il faut qu'on arrête de tout ça. Non, mais c'est dans l'ancienne Bible. Oui. Je crois que c'était l'ancienne Bible. Hein, l'humanité voulait construire la tour de Babel, vous dites, hein, pour arriver au Dieu. Et Dieu, il a créé le langage pour disperser tout le monde et ils n'ont jamais réussi à bâtir justement pour, parce qu'ils ne s'entendaient plus. Parce que tout le monde a une autre interprétation du même mot. Pour toi.
Alors là, de nouveau, il y a énormément à explorer. Moi, pour moi, le langage fait partie de la beauté de l'évolution de la nature. Hein, parce que ce n'est pas l'homme qui a créé le langage, c'est la nature. L'homme est la nature. Et donc, du coup, tout ce que l'homme crée, c'est la nature qui le crée à travers l'homme, à travers les chiens, à travers tout. C'est pas... Et du coup, le langage est une émergente, un développement de la nature, tout comme la conscience. Et la conscience de, et la, conscience de la conscience. Ce qui est incroyable, être conscient d'être conscient, c'est absolument incroyable. D'habitude, la conscience, elle est là, dehors, et puis elle voit les choses. Et, mais là, elle se retourne sur elle-même, et elle voit qu'il y a quelque chose qui est conscient. Mais tout ça est aussi grâce au langage. Et le langage, à mon avis, est un outil magnifique et beaucoup trop compliqué. Et de là viennent les problématiques. Et du coup, ce qu'il nous faut, c'est grandir, pas éliminer le problème, je pense. Mais ça, c'est des... C'est des...
Non, je ne dis pas qu'il faut éliminer le langage, hein, parce qu'il faut qu'on communique, sinon... Ouais, je ne sais pas, peut-être pas.
Oui, voilà. Ouais.
C'est à réfléchir. Mais est-ce qu'il ne faut pas donner beaucoup plus d'importance aux sentiments ou aux ressents qu'on a?
Alors, on va finir là-dessus, parce que le temps passe, mais dans quelle mesure donner de l'importance aux sentiments, mais est-ce que le sentiment existe indépendamment du langage? Est-ce que les sentiments, et c'est ce qu'on voyait avec les perceptions, existent indépendamment du langage? Donc, on va dire, donner de l'importance au sentiment, mais le sentiment n'est pas forcément indépendant du langage. Donc, du coup, c'est là, et c'est là les questions philosophiques depuis le début, depuis des milliers d'années. Hein, est-ce que les choses qui sont perçues et ressenties existent indépendamment de la conception voilà, c'est là-dessus qu'on est depuis le début. Et là-dedans, dans la conception, le langage... à sa partie.
Je peux encore répondre? Je ne sais pas si tu le connais, c'est vraiment quelqu'un qui est, dans mes yeux, intelligent, mais grave. Eckhart Tolle, il s'appelle. Vous connaissez? Hier encore, parce que je fais que regarder des trucs sur ça, hier encore, il a dit, j'ai vu un truc, il a dit, tout le monde a en soi.
Tout le monde a en soi?
Non, là en soi.
En
tu
soi.
Regarde. T'es plein dans tes pensées, hein, t'es quelqu'un qui n'a jamais fait de la méditation, rien. Et il dit pourtant, même ces gens-là, ils voient un coucher de soleil et ils peuvent être complètement bouleversés en disant, même si c'est une fraction de seconde. Oh, que c'est joli. Ils regardent le regard d'un enfant, d'un bébé et... Oh, oui. Et on a d'autres qui sont perdus pour vie, hein, qui ne le voient pas. Mais tout le monde, lui, il dit, on l'a en nous. Les sentiments, ce qui est important, ce qu'on recherche dans un sens, dans la méditation. On l'a en nous, sauf il faut, comme tu dis, il faut l'entraîner. Il faut entraîner, apprendre quoi, à le faire remonter de nouveau à force. Et ça n'a rien à voir. Quand tu vois un soleil couché ou levant, ça n'a rien à voir avec des pensées. Rien. C'est quelque chose qui brûle ici. Tomber amoureux, c'est pareil. On a les papillons dans le ventre, mais c'est comme ça. Tu ne peux pas l'expliquer. Il n'y a pas de pensée là. C'est comme ça. Tu tombes amoureux, voilà.
C'est foutu,
quoi.
Oui. Ok, laissons-le là. C'est foutu. Ok.